Il y a une utilisation de l'intelligence artificielle au niveau de ce qu'on appelle les entreprises retail, donc à la fois au niveau du marketing, au niveau de l'aspect commercial et des activités en tout genre. Alors, on va distinguer véritablement trois axes de formation. Le premier, qui est l'axe de management. Donc, on va avoir toutes les composantes de marketing, de commerce, de communication, pour justement pouvoir, et de finance, pour pouvoir piloter un projet, piloter une activité, piloter une entreprise. Ensuite, il y a l'axe, bien évidemment, lié à l'intelligence artificielle, lié au data. Donc, on va y apprendre toutes les notions de mathématiques, de statistiques, toutes les notions de probabilité, et bien évidemment, les langages de programmation. On y retrouve les plus connus Python et R pour justement mettre en place du traitement de données. Cette notion de big data qu'on retrouve notamment en banque ou en marketing. Et puis, toute la partie algorithmique, justement pour pouvoir accéder au métier de ce qu'on appelle data scientist. Et le troisième axe, c'est véritablement l'aspect soft skills, de développer aussi des professionnels qui vont pouvoir s'intégrer au monde de l'entreprise et développer cette dimension un peu plus souple, un peu plus molle, qu'on retrouve sur le comportement professionnel en entreprise.
L'IA School ouvre ses portes à plusieurs profils.
En fonction de l'année dans laquelle ils intègrent, on a un petit peu tous les profils. Hein. On a celui qui a envie de développer ses connaissances en intelligence artificielle et qui va venir se former dès la première année. Donc, il va apprendre les probabilités, qui va apprendre les statistiques et qui va arriver jusqu'à des fonctions de data analyst, data scientist. Et puis, on a la personne qui a un bon background scientifique, voire même un très bon niveau de programmation et qui vient justement acquérir toutes les notions de management de projet. Et puis, on l'espère, celui qui est un peu mixte et qui vient développer ces deux notions en même temps, ce côté hybride, pour prendre les fonctions, vous le disiez, de direction et de pilotage de projet et d'entreprise. Et ceux qui sont au sein de l'IA School ont quand même une vision très réaliste de l'utilisation, de l'exploitation de l'intelligence artificielle et sont sortis des clichés que vous évoquiez ou que j'ai évoqué tout à l'heure, ce côté un peu robot humanoïde qui va venir prendre le contrôle de la planète. Je pense que justement avec la vulgarisation et puis la mise à disposition d'un certain nombre d'outils, quand on voit certains chatbots sur les sites internet de grandes institutions ou quand on voit certaines applications de transformation d'images, justement le public et l'étudiant qui vient de nous rejoindre comprend tout le potentiel de l'intelligence artificielle et son exploitation.
Car le but n'est pas de fantasmer, mais bien maîtriser au mieux cet outil pour faciliter notre quotidien.
C'est vraiment de prendre l'intelligence artificielle comme un outil capable d'améliorer le quotidien, capable de venir œuvrer. On a une autre formation liée au développement durable, donc peut-être venir œuvrer sur des économies d'énergie. Donc voilà, il y a une utilisation de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs d'activité. Demain, tous les secteurs d'activité vont être touchés par cette intelligence artificielle ou par une intelligence artificielle qui va venir encore une fois optimiser, améliorer le quotidien.
Pour Gadget Boone, les craintes autour de l'intelligence artificielle doivent être apaisées.
Ça doit être et rester un outil qui va venir faciliter le quotidien du professionnel et le quotidien de tout un chacun. On voit bien évidemment l'explosion des voitures. Je pense notamment à la marque Tesla où on parle de voitures autonomes qui est déjà un grand pas en avant, mais on voit également justement tous les outils, je disais tout à l'heure, de chatbot. On va pouvoir venir améliorer l'apprentissage. On parle d'apprentissage en intelligence artificielle. On va améliorer l'apprentissage des recherches, on va améliorer l'apprentissage de la réalisation d'un certain nombre d'outils, donc pouvoir gagner du temps. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on essaye de le faire au sein de l'IA School et au sein du groupe GEMA, ne pas déshumaniser le rôle de l'opérateur qui vient justement créer cette intelligence artificielle. En tout cas, c'est des valeurs qui sont importantes pour nous.
Et pour continuer à maîtriser cette intelligence artificielle, le président de l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique, Bruno Sportis, appelé dans une tribune parue le 29 mars dernier dans le journal Le Figaro, le gouvernement français a renforcé les efforts dans la formation, la recherche et l'innovation autour de ce sujet à long terme.
Bienvenue sur 8FM. Je suis une intelligence artificielle. Chaque nuit, nous passons un moment ensemble à découvrir la musique, mais aussi les meilleurs moments d'interview de la radio. Comme ce moment.
Nouvelle-Aquitaine Mobilité présentait ces derniers jours les avancées sur son dispositif Modalis. Renaud Lagrave est le président du syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilité.
En fait, c'est une plateforme dans laquelle vous allez retrouver un certain nombre d'informations, finalement, voyageurs. Vous allez taper origine, destination, et puis on va vous donner toutes les réponses qui sont possibles, soit en transport public, soit en covoiturage, ou bien éventuellement en vélo. Bref, c'est un outil qui compile toutes les destinations possibles en Nouvelle-Aquitaine grâce au fait que plusieurs autorités de transport, que sont la région notamment, Bordeaux Métropole, toutes les agglomérations qui aujourd'hui développent du transport sur la région, se sont mises d'accord pour mettre en commun cet outil-là qui est aujourd'hui Modalis. L'objectif, c'est d'abord d'avoir accès à l'information sur les transports publics. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui ne savent même pas que le train passe à quelques kilomètres de chez eux, où il y a un car régional, où il y a un réseau urbain qui est à proximité de chez eux. C'est l'information voyageur. C'est extrêmement important pour avoir la connaissance. Ensuite, il y a des territoires où on ne pourra pas abandonner la voiture, mais on peut faire du covoiturage. Ça tombe bien, c'est aussi sur Modalis. Il y a des territoires où on peut rejoindre une gare ou une halte ou une aire de covoiturage avec son vélo. Ça tombe bien, c'est aussi sur Modalis. Tout ça, si vous voulez, c'est pour faciliter les déplacements de nos concitoyens et leur porter à connaissance véritablement ce qu'il y a comme offre à proximité de chez eux, pour pouvoir se rendre soit sur leur lieu de travail, soit sur leur lieu de vacances, soit éventuellement leur lieu de formation. Bref, qu'on ait un outil simple, indépendamment de qui s'en occupe, que l'usager ait un outil le plus simple possible pour ses déplacements.
Avec un objectif de créer un titre unique.
L'idée, c'est que tout simplement, aujourd'hui, Modalis, c'est une marque d'ores et déjà qui commence à être connue. On a des millions de visiteurs sur le site internet qui font des recherches. L'idée, c'est qu'on démultiplie encore plus. Pourquoi ? Parce que on pense, avec d'ailleurs toutes les autorités de transport de Nouvelle-Aquitaine qui ont finalement travaillé ensemble autour de cette marque-là, qu'il faut développer les outils, notamment l'achat de billets, notamment la facilité pour avoir finalement des interlocuteurs ou des interlocutrices, et puis qu'on ait aujourd'hui le maximum de déplacements qui soient reportés justement sur Modalis. Pour ça, ça veut dire qu'il faut le faire connaître. C'est notre rôle à toutes les autorités de transport sur la Nouvelle-Aquitaine. Mais qu'il faut renforcer les outils que vous allez pouvoir avoir justement sur Modalis. C'est l'objet de tout le travail que nous allons faire, notamment en y adjoignant sur un certain nombre de réseaux, une nouvelle billettique qui vous permettra finalement, avec une seule carte, d'avoir vos abonnements, vos billets, d'avoir tout dessus. Encore une fois, c'est finalement l'usager qu'on doit aider dans sa mobilité, peu importe encore une fois de savoir qui est derrière le réseau. L'usager doit être finalement dans une mobilité sans couture.
Un travail de longue haleine au niveau de la grille tarifaire.
Alors pour l'instant, on n'a pas agrégé, on a finalement compilé les tarifs des différentes autorités de transport. On travaille justement dès le début de 2023 à cette intégration tarifaire finalement qui permettra sur un certain nombre de territoires, notamment sur les territoires urbains qui ont besoin de travailler avec les communes et les communautés de communes qui sont à leur périphérie mais qui ne sont pas membres de leur communauté d'agglomération ou métropole, eh bien de pouvoir travailler à cette intégration tarifaire. C'est un travail de longue haleine. Certains territoires s'y sont essayés et n'ont pas réussi. On va essayer dès le début de 2023, justement, on lance des groupes de travail pour travailler cette intégration tarifaire et permettre encore une fois que sur certains réseaux, il puisse y avoir finalement une offre encore meilleure pour les usagers au niveau financier.
Un projet avec l'idée de faciliter les déplacements entre territoires urbains et ruraux.
Oui, c'est évident qu'aujourd'hui, la relation entre l'urbain et le périurbain, et même des territoires un petit peu plus éloignés, est aujourd'hui une préoccupation d'ailleurs qui est à l'ordre du jour de toutes les autorités de transport. Pourquoi ? Parce que forcément, on a un certain nombre de dispositifs qui se situent sur les capitales régionales, qui se situent dans les entrées d'agglomération ou aux portes des agglomérations. Donc il faut qu'on arrive à combiner justement à la fois avec le transport urbain et les transports interurbains, que ce soit par car ou par TER, des dispositifs qui permettent de relier les territoires entre eux. C'est l'objectif de Nouvelle-Aquitaine Mobilité à travers les bassins de mobilité, il y en a 5 en région Nouvelle-Aquitaine, qui permettent de travailler à des offres meilleures, parfois ça peut être des choses très simples, comme des outils de covoiturage qui sont mis à disposition des entreprises pour simplifier et finalement aider toutes celles et ceux qui peuvent en bénéficier. Parfois, ça va être du car express. Une autre fois, ça va être du transport à la demande. Bref, il y a toute une somme d'outils qu'on essaye de déployer, notamment pour faire en sorte que tous les territoires puissent bénéficier d'offres supplémentaires dans la région.
À noter qu'un appel à concertation est aussi lancé pour améliorer les déplacements dans la région.
L'objectif, il est extrêmement simple. C'est que on a, nous, de notre côté, réfléchi entre autorités de transport à qu'est-ce qui pourrait s'améliorer en termes d'intermodalité, en termes de mobilité sur nos territoires respectifs. Et on a compilé tout ça à l'échelle de Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Aujourd'hui, on souhaite que nos concitoyens, toutes celles et ceux qui souhaitent améliorer et avoir finalement un futur des mobilités qui soit encore plus intéressant et qui parfois pourrait être un petit peu, même parfois peut-être potentiellement du rêve, nous disent voilà ce qu'on voudrait et ce à quoi on aspire en termes de mobilité. Non pas qu'on va le faire comme ça parce qu'on va pas raser gratis du jour au lendemain, mais qu'en tout cas on se fixe des objectifs qui soient des objectifs très ambitieux et qui répondent aussi aux demandes des usagers sur le terrain. D'où le fait qu'il nous est apparu utile de lancer cette concertation aujourd'hui sur de Nouvelle-Aquitaine Mobilité pour qu'on puisse, sur chaque territoire de la Nouvelle-Aquitaine, recueillir un petit peu le ressenti et puis l'idéal, finalement, de nos concitoyens en termes de mobilité.
Bienvenue au cœur de la nuit. On passe d'un sujet intéressant à un autre. C'est ça, la nuit sur 8FM.
Qui n'a pas de petite pièce orange qui traîne au fond de son sac ou de sa poche de manteau, de l'argent qui dort, en somme, du pouvoir d'achat perdu pour l'entreprise Coinstar, l'un des leaders dans le monde de transformation de pièces en bons d'achat dans les grandes surfaces alimentaires. On a interviewé le directeur général France, Patrick Debecq, au moment où l'entreprise avait fait un partenariat avec les pièces jaunes.
Alors, Coinstar, c'est le leader mondial de la transformation de pièces en bons d'achat dans les grandes surfaces alimentaires. L'idée, c'est une société qui a été créée il y a une trentaine d'années aux États-Unis, c'est que dans la plupart des foyers, il y a de l'argent qui dort sous forme de pièces. Je ne sais pas si chez vous, vous avez un vide-poche, par exemple.
D'accord, ouais.
Et la valeur cumulée de cet argent qui dort dans un pays comme la France, c'est plus de 500 millions d'euros.
Ah oui.
Et aux États-Unis, et Coinstar, ils sont dans une dizaine de pays, mais principalement aux États-Unis et au Canada, ils comptent 3 milliards de dollars par an.
Ouais.
Donc, on parle d'une masse monétaire vraiment importante, qui est un pouvoir d'achat oublié. Et l'idée de Coinstar, c'est de simplifier pour les particuliers le processus pour se débarrasser de cet argent qui dort et de redonner du pouvoir d'achat aux gens qui ont envie de se débarrasser de ces pièces. Oui. Voilà l'idée de base, si vous voulez. C'est que comment réinjecter dans l'économie l'argent qui dort et le faire de la façon la plus simple possible. Pourquoi est-ce que Coinstar existe? C'est aussi parce que les banques refusent de prendre ces grosses quantités de pièces ou c'est pas simple. Elles vous demandent de le mettre en rouleau, certaines agences le refusent. Enfin, il n'y a pas de circuit simple pour se débarrasser de ces pièces. Si vous essayez de payer votre boulangère ou même votre supermarché avec un kilo de pièces, ils vont vous regarder de travers, vous avez bloqué la caisse pendant 10 minutes. Enfin, c'est une expérience qui est pas très agréable. Donc finalement, l'idée de Coinstar est partie de là. C'est comment aider les particuliers à se débarrasser simplement de cet argent qui dort chez eux.
D'accord. Donc même les petites pièces oranges, qui a 1 ou 2 centimes qui reste au fond de la poche, voilà quoi.
Enfin, c'est principalement celle. Alors on compte toutes les pièces hein, jusqu'à 2 euros, mais les trois quarts des pièces qu'on compte, 77% pour être précis, c'est du 1, 2 et 5 centimes. C'est vraiment cet argent-là qui dort. Et alors pourquoi principalement cet argent-là dort? Il y a une stat qui est vraie au niveau européen, c'est que 60% des pièces ne sont utilisées qu'une seule fois. Et c'est encore plus vrai pour les petites pièces. La Banque de France doit frapper 10 pièces de 1 centime pour qu'il y en ait une qui revienne dans le circuit. Alors que ce ratio est de 1 pour 1 pour les pièces de 1 euro.
D'accord, ok. Donc du coup, on met nos pièces et on a un bon d'achat, mais pas pour un produit particulier, c'est pour le magasin.
Non. Ouais. Pour l'ensemble du magasin, ce bon d'achat est valable 30 jours et il n'est valable que dans le magasin où vous avez qui a imprimé le bon, évidemment.
Oui, bien sûr. Et donc, du coup, là, vous vous joignez aux pièces jaunes. Alors, comment ça se passe?
Alors, l'idée, c'était vraiment assez naturel qu'on se rapproche des pièces jaunes ou que les pièces jaunes se rapprochent de nous. Puisque nous en France, on a à peu près, on a un parc de 1000 bornes maintenant, et on s'est dit, il faudrait vraiment qu'on modernise l'expérience de don en pièces pour pièces jaunes. Avant que ce partenariat existe, finalement, vous aviez votre tirelire, vous alliez à la poste. À la poste, on vous prend votre tirelire, on vous dit pas combien vous avez donné. Si vous n'avez pas compté vos pièces avant, vous savez pas. On ne matérialise pas votre don, on vous donne pas un reçu à la poste, on vous dit merci. Et vous partez, mais il n'y a rien qui va matérialiser votre don. Donc vous ne savez pas combien vous avez donné, vous n'avez pas de reçu par rapport à votre don. Et enfin, quelque part, vous ne savez pas non plus si vous avez beaucoup donné par rapport à d'autres, si vous êtes dans une ville qui donne beaucoup, et ainsi de suite. Nous, ce qu'on a proposé à Pièce Jaune, c'est d'utiliser les bornes de nos clients, Carrefour, Auchan, le Casino, Leclerc, toutes les enseignes, Et finalement, de régler ces deux questions. C'est-à-dire que quand un enfant vient avec sa tirelire et qu'il la verse dans la borne, immédiatement, il sait au centime près combien il a donné. Donc ça, c'est déjà nouveau par rapport à l'organisation d'avant. Ensuite, la borne va émettre un ticket qui va dire « Merci pour le don que vous avez donné tant ». Et pour tous les dons supérieurs à 5 euros, ce ticket, il sert à demander un justificatif fiscal. Donc si vous faites un gros don, vous pouvez même utiliser le reçu de la machine pour défiscaliser votre don, ce qui n'était pas possible avant. Donc ça, c'est les deux gros avantages pour le particulier. Pour l'association Pièces Jaunes, le processus de collecte et de récupération des pièces était très long. Généralement, ils récupéraient les pièces 6 mois plus tard, et surtout, le comptage était estimé, ils le faisaient au poids. Donc ils ne savaient pas exactement combien ils collectaient, de façon précise, et ça prenait pas mal de temps. Avec nous, ils savent en temps réel combien ils collectent dans nos bornes, et nous, le processus de récupération de l'argent est beaucoup plus court, et du coup, ils peuvent avoir l'argent collecté sur leur compte quasiment un mois après la fin de la collecte. C'est à la fois un avantage pour l'association, c'est plus précis, c'est plus rapide, c'est plus simple, et en même temps, ça réinvente, ça réenchante, si vous voulez, l'expérience du don. Et ça crée même de la viralité. On avait installé une borne à Orléans, je me souviens, pour le lancement de Pièces Jaunes. Et il y a toute une équipe de foot, des enfants qui devaient avoir des ados de 13 ans. Ils sont chacun venus, ils étaient 11, ils sont chacun venus avec leur tirelire. Ils ont versé dans la borne toute leur tirelire pour faire un gros ticket. Ils ont fait 120 euros. Ils étaient hyper contents, c'était le plus gros ticket de la journée. Et du coup, ils se sont pris en photo devant la borne avec le ticket, ainsi de suite. Voilà, donc, quelque part, vous réinventez un peu la façon de donner, et ça s'insère pas mal, en plus, dans une communication réseau social.
Par rapport à Pièces Jaunes, donc, du coup, vous me dites que l'an dernier, vous l'aviez déjà fait, c'est ça?
Alors, nous, on l'a fait de façon progressive. On a démarré il y a 2 ans, en 2020, avec Pièces Jaunes. C'était juste avant le Covid.
Ouais.
Et on avait fait un pilote, c'est-à-dire qu'on avait mis que 25 bornes pour voir si vraiment ça changeait les choses ou pas.
D'accord.
Et ça avait bien marché. Du coup, l'année suivante, on était venu avec une centaine de bornes. Sauf que l'année suivante, c'était le Covid. Et du coup, Brigitte Macron avait dit, on fera pas de collecte métallique cette année. Donc c'était pas vraiment une année représentative.
Mm.
Donc la vraie année où on déploie finalement le dispositif des bornes, c'est cette année, on en a 400.
D'accord, mais du coup, elles sont identifiables dans le magasin. Il y a marqué quelque chose qu'on sache.
Non. En fait, les bornes, elles sont habillées.
D'accord.
On a envoyé à tous les magasins partenaires un habillage magnétique qui se pose. C'est un aimant en fait, et qui recouvre la borne. Donc la borne est toute jaune.
D'accord.
Et en plus, sur la borne, on a un écran qui, lui aussi, est marqué en gros pièce jaune. Donc pendant les 3 semaines de la collecte, notre borne, elle devient très pièce jaune.
Sur 8FM, nous passons les nuits ensemble. Et on découvre ensemble vos sons préférés comme celui-là. I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when it breaks your heart next summer, baby, I'll be waiting, yeah. Call me when you're all fucked up, my lover, and I'll be there to lick your tears. You had to throw away your love to find out nothing's as good as us. So call me when it breaks. If you love
breaks your heart next summer, baby, I'll be waiting here. Call me when you're all fucked up, my lover, I'll be there to leak your tears.
Bonsoir, chaque nuit nous nous retrouvons pour découvrir les meilleurs reportages, interviews de la rédaction. Je suis l'intelligence artificielle qui vous accompagnera toute cette nuit. Bienvenue sur 8FM.
Comment faire pour mieux insérer les personnes handicapées au quotidien ? Pas facile quand on ne connaît pas soi-même le problème. Lali Zetoun est maman d'un jeune adulte handicapé. C'est grâce à lui qu'elle a eu l'idée de Fraternitim, une colocation inclusive.
Donc du coup, comment je vous présente par rapport à Fraternitim ? C'est quoi votre rôle ?
Moi, mon rôle, je suis fondatrice, cofondatrice de l'association Fraternitim, puisque c'est une association qu'on a créée en famille, en fait, autour de Jérémy. Jérémy, c'est mon fils.
Oui.
Et on a créé ça avec Frédéric, mon mari, et Lucie, ma fille.
Bon, c'est une association familiale, donc, du coup.
Ouais, c'est une association familiale parce que, au départ, vous savez un peu de quoi il en est, là, ou je refais toute l'histoire?
Non, le but, c'est justement que vous me parliez un petit peu de l'association, comment elle est née et en quoi ça consiste. Donc, je vous écoute.
Alors écoutez, donc tout a commencé par un besoin puisque Jérémy, qui a 25 ans, est en situation de handicap. Depuis qu'il a 7 ans, il a été diagnostiqué, il vit avec une maladie qui s'appelle une ataxie de Friedreich, qui est une maladie génétique évolutive, et donc depuis l'âge de 14 ans, il est en fauteuil roulant et il a perdu pas mal en autonomie ces dernières années. Malgré tout ça, en fait, il a réussi à faire des études brillantes, hein, puisqu'il a un master en communication digitale, et il a été embauché par la suite dans une grande entreprise de conseil et d'audit. Il fait de la RH, il est chargé de formation, ça fait 2 ans qu'il est jeune actif, en fait, qui travaille. Et suite à son autonomie financière, c'était posé le problème de son autonomie tout court, quoi. Parce qu'à 25 ans, lui, il avait comme projet de vivre sans ses parents, comme tout jeune actif de son âge. Et malgré tout, Jérémy a quand même besoin d'une aide humaine importante. Voilà, il a besoin de quelqu'un pour l'aider le matin, pour s'habiller, se préparer, se faire à manger. Il a besoin d'une aide humaine en permanence, en fait. Et nous, on avait déjà expérimenté l'aide de jeunes qui vivaient chez nous. C'était des jeunes étudiants étrangers qui venaient passer une année chez nous ou deux et qui lui donnaient un petit coup de main en échange d'être hébergés chez nous. Ça a été le cas avec Adam, qui est un jeune étudiant nigérien qui voulait venir faire ses études STAPS à Paris et qui a passé 2 ans avec nous. Et en échange, il lui donnait un petit coup de main au quotidien, quoi. Et ça a été vraiment une grande révélation parce que c'est vrai qu'on a beau être très proche, mais aller au sport ou aller boire des coups avec ses copains, avec sa mère, oui. C'est pas dans l'ordre des choses. C'est bien plus sympa de le faire avec un jeune de son âge. Et comme on avait cette expérience très positive d'une aide apportée par un jeune du même âge et qui était motivé, on a décidé de mettre en place cette coloc pour permettre à Jérémy de vivre sans nous. En fait, Frédéric et moi, mon mari, on a quitté l'appartement familial qui était assez grand et qui était surtout adapté au handicap de Jérémy. Et il y avait 4 chambres, donc on a trouvé des jeunes valides qui voulaient s'engager auprès de Jérémy en échange d'un loyer très très modéré.
Ok, et du coup Fraternitim, ça a dépassé Jérémy après, du coup?
Alors pour l'instant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'on a mis ça en place, évidemment, on a fait quelques posts sur les réseaux sociaux et on a eu un retour incroyable, aussi bien du côté de personnes en situation de handicap qui nous disaient mais attendez, c'est super votre truc, moi je veux faire la même chose, alors soit pour mes enfants, soit pour moi-même quand c'était des jeunes actifs. Et surtout enfin de jeunes valides qui disaient mais moi j'ai envie de donner du sens à ma vie, j'ai envie de m'engager auprès de vous pour ce genre d'organisation, voilà, basée sur l'entraide. C'est ça qui est ressorti en fait, c'était ça. C'était les jeunes valides étaient en quête de sens. Et voilà, et il y avait un besoin de jeunes en situation de handicap qui avaient besoin d'aide humaine, et ça matchait aussitôt, quoi.
Ah, c'est top, ça. Et donc, du coup, là, vous avez combien de fraternies Team Coloc?
Team Coloc? Eh ben, c'est bien ça, le souci. C'est que pour l'instant, on n'en a qu'une, la nôtre. Voilà, parce que elle est financée par nos fonds propres, en fait. Parce qu'on est propriétaire de notre appartement et que... Au lieu de percevoir un loyer, on se réjouit d'avoir un demi-loyer, mais qui permet à notre fils d'être autonome en fait. Mais vu la demande, nous on a acquis quand même une certaine expérience, on a acquis un certain savoir-faire. Moi j'ai été institutrice moi pendant 25 ans. Donc pour moi la transmission c'est super important, c'est faire partager, transmettre notre savoir-faire. On sait comment ça peut bien se passer. On sait identifier quel jeune avec qui ça va pouvoir le faire. Donc on veut faire profiter de tout ça à d'autres familles puisqu'on a été sollicité. Mais après voilà, nous on est en cherche de financement après hein, pour avoir d'autres logements pour organiser.
Du coup on peut nous, on faire des dons faire, j'imagine. Mais... Ouais.
Comment?
On peut vous faire des dons, j'imagine, du coup.
Ah bah oui, avec plaisir. et c'est vrai que voilà, nous on a eu le prix du challenge qui a été organisé par le groupe Apicil. C'était un challenge sur l'inclusion qui récompensait des projets qui permettaient d'avoir une société plus inclusive. Et nous, ça nous a tout de suite parlé parce que c'est un peu ça l'objectif de notre association, quoi. Parce que OK, il y a le volet coloc et c'est ça qui a séduit le groupe Apicil parce que ça touche à plein de choses, c'est-à-dire ça touche au handicap, mais ça touche aussi à la précarité des étudiants, il y a plusieurs nationalités dans notre coloc c'est très sympa, ça brasse des valeurs qui nous sont chères. Mais voilà, après il faut d'autres logements pour continuer cette expérience, quoi.
Chaque nuit, on écoute ensemble les meilleurs titres du moment sur 8 FM.
Oh, Darina, oh, Darina, no te aplicas hoy.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de nos podcasts.
8FM, Zoom Info.
La ville de Bordeaux rallume la lumière. On va tout vous expliquer dans ce Zoom Info, mais pour ça, un petit retour en arrière s'impose. Au 1er janvier 2023, le maire Pierre Urmic décide d'éteindre la nuit entre 1h et 5h du matin un peu plus de la moitié du parc lumineux bordelais. Une plongée dans le noir pour entre autres éviter l'explosion de la facture d'électricité en pleine crise énergétique. Deux ans plus tard, face aux remontées de terrain, la mairie a décidé de réviser sa copie. On écoute Pierre Urmic.
Nous avons eu des retours comme quoi certaines personnes, beaucoup de femmes, nous disaient ne pas oser sortir le soir tard en raison de l'absence d'éclairage de certaines rues. Donc nous avons entendu toutes ces inquiétudes. Toutes les rues de Bordeaux seront éclairées jusqu'à 2h30 du matin. Et en plus de cette initiative-là, nous avons pris la décision aussi de faire en sorte que certains axes particulièrement fréquentés et structurants, eux, seront éclairé toute la nuit comme auparavant.
Et ça d'ici la fin mars, le temps de configurer les 500 compteurs qui gèrent les 32 000 lampadaires de la ville. Avec cette mesure prise en 2023, la mairie a tout de même fait une économie d'€1 200 000. Alors comment continuer à faire des économies en augmentant les amplitudes horaires d'éclairage? Eh bien en accélérant l'installation d'éclairage LED et en misant sur des dispositifs innovants, comme nous l'explique Laurent Guillemin, adjoint à la mairie de Bordeaux en charge de l'éclairage public.
Les économies qui ont été faites sont investis dans l'accélération du relamping et la mise en place de détecteurs. On partait de loin, on avait un parc qui était en LED à peu près à hauteur de 20%, maintenant on est à 30%. Certaines villes sont déjà aujourd'hui, au moment où je vous parle, sont déjà sur du 100%. On est aujourd'hui en ayant une belle dynamique sur le relampage, le relamping, on n'est que sur 30%. Donc forcément, moi, plus j'en change, plus je fais l'économie.
La municipalité va aussi mettre en place un dispositif d'évaluation citoyenne dans les prochains mois avec des citoyens, mais aussi associations ou encore professionnels de la nuit pour continuer à faire évoluer les besoins en éclairage public.
C'est bientôt la fin de la nuit sur 8FM. Je vous retrouve demain. D'ici là, passez une bonne journée. Au revoir.
Bonjour à toutes et à tous. Concilier carrière de haut niveau et projet de maternité, un véritable défi pour de nombreuses sportives. Médaillée aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, l'escrimeuse Cécilia Berder est devenue maman en mai 2022. Un projet de maternité décalé d'un an en raison du report des Jeux Olympiques.
C'était un projet déjà à deux, un projet presque, je pourrais dire, viscéral. On avait vraiment envie de fonder une famille avec mon conjoint et c'était quelque chose qui nous tenait très à cœur. Évidemment, il y a eu le report des Jeux déjà, Tokyo 2020 qui s'est transformé en Tokyo 2021. Moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est très compréhensif, qui comprend ce que c'est le sport de haut niveau, qui est au quotidien aussi avec moi. Donc du coup, qui a compris que notre projet familial allait aussi lui être reporté d'un an. Mais voilà, c'était comme je dis, viscéral. On avait vraiment envie de ça et ça se co-construit, il faut de l'aide aussi et ça se réfléchit dans une carrière sportive, ça c'est sûr. Il y a la loi de la science et de la nature humaine qui fait qu'on ne choisit pas forcément quand est-ce qu'on tombe enceinte. Donc déjà, c'est un premier paramètre. Nous, on a eu un petit peu de chance parce que c'est arrivé assez vite. Et puis après, il y a un calendrier sportif. C'est sûr que être enceinte, avoir une grossesse, avoir un enfant, ça chamboule toutes les priorités, dans le bon sens du terme. Et ça te fait finalement une saison où tu ne peux pas partir en compétition, tu ne peux pas faire de Coupe du Monde. Donc du coup, tu n'as pas de points au classement mondial. Donc du coup, tu perds aussi ta place dans l'équipe. Du coup, tous les dés sont rebattus. Mais en vrai, dans cette aventure, t'as quelqu'un chez toi qui est nouveau, t'as un petit bébé qui est là et qui te regarde tous les jours et que toi tu peux admirer tous les jours grandir. Donc voilà, tous les sens des priorités est remis en question et pour la bonne cause. Donc ça vaut le coup. Ouais.
Mais les sportives sont-elles bien accompagnées dans leur projet? Il y a encore quelques années, la maternité des sportives de haut niveau était un sujet tabou, mais les mentalités évoluent, constate Cécilia Berder.
J'ai eu de la chance parce que finalement, quand je suis arrivée, déjà le ministère des Sports s'est vraiment emparé du sujet avec un livret qu'ils ont sorti pour toutes les bonnes pratiques. J'ai aussi la chance d'être suivie par une gynécologue qui est vraiment experte dans le domaine puisqu'elle travaille à l'INSEP, elle sait exactement ce que c'est les grossesses, elle s'appelle Carole Maître et elle est vraiment aujourd'hui la référence en termes de grossesse et de sport de haut niveau, donc c'était quand même une chance de pouvoir être suivie avec elle. Et puis surtout aussi ma préparatrice physique donc qui s'appelle Anne-Laure Morini, qui elle a eu deux grossesses et qui est une férue du sport et qui est vraiment experte dans son domaine d'expertise de la préparation physique et qui du coup tous les jours enceinte, je me suis informée tous les jours jusqu'au terme, m'a aidée, m'a accompagnée, m'a pas vue comme une personne ni fragile ni blessée. plus comme une personne enceinte qui avait un projet sportif. Et j'avais aussi ma prof de piscine qui était constamment là, Jacqueline Delors, et qui m'aidait dans l'eau et qui voilà, même pareil que les deux autres personnes qui alliaient une certaine compréhension, parce qu'elle avait déjà eu des enfants, et qui me rentrait vraiment dedans, alliée avec une vraie tendresse et une vraie bienveillance, mais qui me challengeait, comme les sportifs de niveau aiment l'être. Et ça, de voir que j'étais pas en sucre, voir dans leurs yeux que je pouvais chercher de la performance tout en étant avoir de la vie qui grandissait dans mon ventre, bah, c'était jouissif, parce que vraiment, elles avaient compris mon projet, et ça se fait pas tout seul. C'était souvent ça qu'elle me disait aussi, ma gynéco, voilà, c'est beaucoup de bon sens, parce que j'ai la chance de connaître mon corps, il y a des choses que je pouvais plus faire, des bonds, des sauts, des cardio à haute intensité, je pouvais plus le faire, mais on trouvait d'autres paliers, dans l'eau, on peut faire beaucoup de choses, des choses à poids de corps, on peut faire énormément, et puis mes maîtres d'armes aussi avaient vraiment compris, je continuais à prendre des leçons, alors ils avaient souvent un petit peu de mal à me toucher, parce que, ils voyaient bien que mon gros ventre qui poussait, et que c'était pas facile pour eux d'avoir une femme enceinte face à eux, c'est pas commun quand même, mais ils étaient là, à m'écouter, à comprendre où je voulais aller, et ça se co-construit, c'est sûr.
La sabreuse du cercle d'escrime orléanais a en effet continué de s'entraîner pendant toute sa grossesse. Elle ne s'imaginait pas faire autrement.
Étonnamment, c'était là où je me sentais le mieux. Quand j'étais chez moi, j'ai eu une grossesse quand même assez bonne et facile, mais j'avais beaucoup de nausées et de remontées acides sur cette grossesse. Donc du coup, c'était quand j'étais à l'entraînement que je me sentais finalement le mieux, parce que je mettais mon corps en mouvement avec des exercices adaptés, mais j'étais vraiment dans l'action. J'avais pas le temps de me reposer trop et de me concentrer sur mes nausées, j'étais vraiment concentrée sur autre chose. Et surtout, je voyais mon corps qui évoluait, mais qui gardait autonomie. Je m'améliorais en souplesse. Le haut du corps, par exemple, j'ai eu des épaules qui étaient beaucoup plus musclées qu'avant la grossesse. Et ça, c'est quelque chose que je continue à conserver. Donc, il y a plein de domaines dans lesquels j'ai progressé. Alors évidemment, vous prenez du poids, vous perdez en explosivité, vous perdez en tonus, vous perdez en endurance, mais j'ai gagné en souplesse, j'ai gagné en musculature du haut du corps, j'ai pu soigner mes bobos du quotidien. C'est pas anodin aussi, parce que ça faisait plus de 20 ans que je suis en équipe de France, votre corps il est un peu usé, donc du coup ça permet de faire un petit reset sur des hanches, des genoux, des articulations qui sont un peu fragilisées. Donc voilà, c'était vraiment un temps où tu sens que la vie rentre dans ton corps, et c'est pas anodin quoi. Franchement, d'avoir quelque chose qui bouge dans ton ventre, c'est quelque chose de particulier, il faut en prendre soin, c'est tellement précieux. Et en même temps, voilà, chercher la performance, voilà, c'était constamment cet équilibre-là qui était fou à trouver, et ça m'a permis d'encore mieux connaître mon corps, et c'était très riche. Ouais.
En revanche, pas question pour elle de continuer les compétitions.
Au bout de 3 mois de grossesse, j'ai fait ma dernière compétition et j'ai dit c'est plus ma place. Parce que quand vous êtes en compétition, il faut vraiment avoir cet esprit très animal, très félin. Il faut donner sa vie, faut pas avoir peur de transpirer, de cracher ses poumons, de saigner, parce que c'est un sport de combat. Et vraiment, au bout de 3 mois, même un peu avant, j'ai ma dernière compétition à 3 mois, j'ai dit c'est plus ma place. Voilà, je veux plus être là. J'ai quelque chose à protéger dans mon ventre et je ne supporterai pas avoir des coups. Par contre, au niveau de l'entraînement, comme moi, j'étais vraiment maître de mes entraînements, j'ai continué jusqu'au bout. J'ai pris la leçon le 3 mai avec mon entraîneur, et le 3 mai au soir, j'étais à la maternité pour accoucher. Donc, j'ai accouché le 4 mai ou le lendemain. Donc, je suis vraiment entraînée jusqu'au bout et c'était très bien. Je suis vraiment contente de ça, parce que déjà, la grossesse s'est bien passée, l'accouchement s'est très bien passé. Et c'est, je pense aussi, parce que j'ai pu m'entraîner et que j'ai pu être suivie, accompagnée, que les gens m'ont conseillé, on me disait, c'est bon, ce que tu fais, c'est bien. Tu réfléchis à chaque fois, voilà, à ce que tu vas faire, à ce que tu peux faire, à ce que tu ne peux plus faire. Et en fait, grâce à ça, je pense qu'aussi, ça s'est bien passé. Donc, vraiment, il faut bien avoir dans l'idée en tête qu'une femme enceinte n'est pas en sucre, qu'elle a intérêt d'être accompagnée, parce qu'on ne connaît pas. Hein. Franchement, tu as la chance d'être quelques fois enceinte dans ta vie, mais quand tu es accompagnée par des professionnels et que tu bouges, parce que vraiment, c'est moi, là où j'étais le mieux, c'est quand je bougeais mon corps, et ben c'était, voilà, ça m'a vraiment fait du bien.
Et si Cécilia Berder a pu mener à bien son projet de maternité, c'est aussi parce qu'avant elle, certaines sportives ont montré la voie, explique-t-elle.
Mélina Robert-Michon, une Charlène Picon, une Cléopâtre d'Arleux, la basketteuse récemment qui à Tokyo était enceinte. Il y a des exemples. En fait, voilà, je crois beaucoup à la force de l'exemple. Et moi, si j'ai cru que c'était possible, c'est parce que j'ai vu des filles faire et des filles revenir et réussir à conjuguer tout ça. Donc, en fait, ce qui est assez agréable, c'est de voir les mentalités qui évoluent, mais même que ce soit des femmes ou des hommes, mes collègues féminines disent, ah ouais, c'est possible, mais ça va, plein de questions, c'est hyper intéressant de pouvoir échanger avec elles, même des filles qui ont 18 ou 20 ans, c'est peut-être pas leur projet actuel, mais dans leur tête, ça fait quand même un petit bout de chemin. Et puis, que ce soit les femmes ou les hommes, c'est peut-être aussi, ces sportifs aujourd'hui, c'est peut-être les futurs entraîneurs. Et aujourd'hui, ils me voyaient à l'entraînement tous les jours, en séance de muscu tous les jours, et en fait, peut-être que dans 5-10 ans, ce sera eux à la tête de l'équipe de France. Et ils diront, bah, en fait, c'est possible. Moi, j'ai déjà vu des athlètes qui étaient enceintes avec un gros bide. Et en fait, elles sont pas en sucre, hein. Vu tout ce qu'elle a fait, l'autre, on voit bien qu'elles sont pas en sucre. Et donc, du coup, ben, d'une certaine façon, quand on montre les exemples, on voit que ça évolue. Et les gens, ça fait leur petit bout de chemin. Et ils se rendent compte que c'est possible. Et du coup, pour le sport de haut niveau, c'est très bien. C'est très bien. Je pense que ça, cette révolution, elle s'est faite dans les autres métiers. Et aujourd'hui, ça arrive aussi dans le sport. Voilà, une femme enceinte n'est pas blessée ou n'est pas malade. Juste, c'est une étape de vie qui est importante. Et plus on en verra, plus on se rendra compte que c'est possible.
Les sportives sont mieux accompagnées, oui, mais il reste encore du chemin à parcourir. Et Cécilia Berder confie par exemple que le retour à l'entraînement et à la compétition n'a pas été facile à vivre.
Non, c'est dur. C'est dur. C'est dur parce que, alors déjà au début, quand tu as ton quotidien qui est bouleversé par la plus belle des choses qui peut arriver dans une vie, j'ai repris par des exercices de gainage, du yoga et quelque chose, un exercice que tu pouvais tenir 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Là, au bout de 10 secondes, t'es essoufflé, t'as mal partout. Et tu te dis, ok, 10 secondes, c'est quand même chaud, quoi. De tenir que 10 secondes et encore, et 10 secondes, tu souffres. Et en fait, faut faire preuve d'indulgence, de patience, d'écoute. Et c'est des choses que, on n'a pas forcément l'habitude de mettre dans notre quotidien, qu'on soit sportif de haut niveau ou pas. Un peu d'indulgence envers soi, ça fait du bien aussi. Et c'est surtout que, évidemment, on est dans un sport très concurrentiel et tu retrouves le sport de haut niveau, tu retrouves la compétition, tu retrouves tes adversaires. Et évidemment, elles n'ont pas attendu, elles ont pas eu un début entre temps. Donc quand tu reviens, tu prends des caramels, quoi. Tu prends des shoots, t'es plus molle, t'es plus lente. Quand tu rentres chez toi, tu peux pas faire les mêmes choses que tu faisais avant en termes de récupération, mais pour la bonne cause, parce que je vous assure que avoir un sourire de ma fille qui est là, tu prends des caramels à l'entraînement, elle le soir quand je rentre, elle me fait les mêmes sourires et on a le droit de jouer exactement de la même façon. Mais finalement, c'est une autre façon de récupérer. C'est différent. Avant, j'allais chez le kiné, je pouvais faire mes étirements, mon yoga, dormir davantage, c'est sûr. Mais voilà, c'est la récupération, elle est plus active et sous ça, c'est très bien. Mais si vraiment je me concentre juste sur ma vie professionnelle et tout est différent parce que votre corps est différent, vos adversaires sont différents, vos collègues d'entraînement sont différents, vos entraîneurs ils vous regardent plus pareil. Les gens qui font même pas votre discipline, ils sont aussi un peu curieux, voilà, ils vont tous regarder un peu, elle en est où Berder, qu'est-ce qu'elle fait, ah elle a perdu du poids, non, ah elle est comme ça, ah mais oh là là, est-ce qu'elle va réussir. Ils ont tous leurs commentaires à faire parce que ça reste un projet un petit peu différent. On n'est pas habitué à voir une femme qui a un bébé et qui revient. Ça commence, hein, honnêtement, il y en a de plus en plus. Il y a une autre escrimeuse qui est aussi comme moi, il y a du judoka évidemment, Clarissa Benignou qui est dans le même cas que moi. Mais forcément, les gens ont envie de regarder, les gens ont envie de faire un commentaire, les gens ont envie d'avoir un avis, les gens ont envie en compétition, ce serait quand même cool de la battre parce que avant, elle était classée, je sais pas combien. Donc, du coup, c'est ça qui est différent. C'est juste que tu reviens après un an où t'as pas été dans la cage aux lions. Et là, boum, tu retournes dans la cage aux lions. Les lions, ils ont envie de te manger. Et toi, retrouver ses repères dans cette cage, en fait, ça prend un peu de temps. Et ça aussi, il faut que je l'accepte. Et que je retrouve l'énergie parce que c'est vraiment aussi ça qui est important. C'est cette énergie animale qu'on a pu développer pendant un an. J'étais tellement concentrée sur que ma fille aille bien et je le suis encore qu'aujourd'hui, cette énergie qu'il faut encore décupler en compétition pour avoir cet esprit tueur presque, parce que ça reste du sport de haut niveau et voilà, c'est juste, j'ai découvert un monde de douceur, de bienveillance avec ma famille et à côté, faut quand même garder cet esprit très animal, quoi.
Et il a fallu s'habituer à un corps qui avait changé, mais c'est aussi donc avec un état d'esprit différent que Cécilia Berder a repris le chemin de l'entraînement.
Mais tout est différent. C'est aujourd'hui, je vois les gens, que ce soit dans le monde du sport ou autre, se plaindre beaucoup. Ça a forcément été le cas avant, mais tout est différent. Le sens des priorités, perdre un match, tu relativises plus vite, c'est sûr, quoi. C'est être fatigué, des fois tu peux t'apitoyer sur ton sort. Non, en fait non, si je suis fatigué, en fait j'ai quelqu'un qui est là, qui attend de pouvoir manger, de pouvoir jouer, de pouvoir être propre, de pouvoir être changé, de pouvoir bien dormir. Elle compte sur moi, et c'est la première fois de ma vie que quelqu'un a besoin de moi aussi vitalement, et tout change en fait, du coup, le sens des priorités, et je trouve ça exceptionnel. C'est ma meilleure partenaire que je pouvais avoir dans une équipe, quoi. Et surtout qu'on le fait à deux, et je pourrais pas le faire toute seule. Mon conjoint, il est là au quotidien, et voilà, c'est un travail d'équipe, et à trois, voilà, on a, c'est moi qui aime la compétition par équipe, voilà, j'ai la meilleure équipe possible pour avancer dans la vie, et c'est la plus belle, c'est même pas une compétition, mais en tout cas c'est les plus beaux événements qui peuvent arriver, quoi. Tout prend une saveur différente, tout des fois tu te dis on se bat, on se prend la tête pour se qualifier à x, y, z compétition, ben, en fait aussi des fois des choses toutes simples, je vais paraître complètement ennuyeux de dire ça, mais des choses, voilà, de bah, juste de marcher, de prendre le temps, main dans la main, être tranquillement, voilà, c'est prendre le temps de ça, parce que les choses font que des fois ça va trop vite, et c'est important de prendre le temps de respirer.
Mère de famille, journaliste et sportive de haut niveau, la Sabreuse a dû trouver une nouvelle organisation pour concilier vie personnelle et vie professionnelle.
Ouais, c'est beaucoup d'adaptation, c'est sûr, surtout les déplacements. Alors j'ai eu la chance d'avoir aujourd'hui des entraîneurs qui comprennent. J'ai déjà refusé deux stages d'une semaine où on va partir très loin, et moi j'essaie de trouver d'autres chemins pour pas aller à ces stages-là, parce que, en sachant qu'évidemment, bah, je perds aussi des moments importants de cohésion de groupe et de d'adversité, ou voir rencontrer d'autres adversaires, mais moi je fais le choix de rester chez moi parce que c'est important, et l'entraîneur aujourd'hui le comprend, mais parce que c'est à moi d'assurer sur les compétitions, et voilà, c'est une fois encore, c'est qu'est-ce qui est important pour moi, bah c'est de rester dans ma famille là. Ok, là cette compétition elle est indispensable pour aller se qualifier là, donc bah j'y vais, et voilà, c'est des arrangements qu'on trouve un petit peu chaque jour, hein. Qui c'est qui va chercher sa fille à la nounou, qui c'est qui la dépose, bah moi j'ai une grosse séance ce jour-là, est-ce que tu peux, parce que je vais finir plus tard, bah boum, le conjoint tout, qui s'adapte. Enfin, c'est des adaptations au jour le jour, et c'est pour le mieux, donc voilà, ça se fait, c'est juste que ça demande de l'organisation, tous les soirs, toutes les semaines, on se calme, on voit nos agendas, et les entraîneurs sont compréhensifs parce qu'ils ont aussi des enfants, et que depuis le début, j'ai pas menti en fait, j'ai dit voilà, ma priorité c'est ça. Numéro uno, c'est ma famille, et après évidemment numéro deux, c'est le projet sportif, puisqu'il est grand, ce projet, mais voilà, j'ai pas menti dès le début.
Et Cécilia Berder note que le regard des autres sur elle a changé depuis son retour à la compétition en tant que maman désormais.
Ah ben oui, c'était dingue. Alors déjà, ça crée beaucoup de joie, puisque sur les quelques compétitions, j'ai amené ma fille sur les déplacements avec mon conjoint qui était là, et du coup, bah les filles, toutes les adversaires voulaient avoir mon bébé dans les bras. C'est quand même un peu particulier. Et je leur montrais ma fille avec beaucoup de fierté, c'est évident. Mais c'est juste des filles avec qui tu vas te cogner sur la tête, et deux minutes après, elles veulent porter la chose que t'as de plus précieux au monde. Et tu te dis, c'est fou comment un petit être arrive à donner aussi vite de la douceur, de la tendresse, de l'amour à nous qui est en train de nous taper dessus deux minutes avant, quoi. Et donc ça, c'est chouette. Et après, ça change le regard de tout le monde, les arbitres, les entraîneurs, les athlètes, ils savent très bien que ils te regardent vraiment, et tu te sens comme un bout de viande regardé. Est-ce qu'elle est gras, est-ce qu'elle est pas gras, est-ce qu'elle est affûtée, est-ce qu'elle est pas affûtée, est-ce qu'elle va aussi vite ou est-ce qu'elle va moins vite.
Et y a-t-il encore des axes sur lesquels progresser pour accompagner les projets de maternité des sportifs de haut niveau? Cécilia Berder répond.
Aujourd'hui, j'ai eu la chance quand même d'être très bien suivie, que ce soit avant, pendant, après. Aujourd'hui, le plus difficile, je pense que c'est le retour à la compétition de haut niveau. Parce que tout est différent, et c'est sûr que même sur l'aspect mental, il faut vraiment être accompagné, parce que tu quittes avant d'être enceinte. Moi, imaginons, j'étais à Tokyo aux Jeux Olympiques, et quand tu reviens, tu repars sur les toutes premières étapes comme quand tu avais 15-16 ans, et c'est pas facile. Et en fait, ce des changements-là d'univers, il est hyper constructif, et c'est intéressant d'être accompagné. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qu'on doit pas laisser de côté, parce que voilà, la préparation mentale, c'est tout aussi importante que revenir en forme physiquement. La boîte très fort physiquement, bah cette cage au lion, faut de nouveau l'appréhender, savoir quel univers. Et puis les choses ont changé. Ça peut paraître anodin, mais les arbitres, par exemple, n'étaient plus vraiment pareils. Les adversaires sont plus vraiment les mêmes. Voilà, c'est le cas, j'ai eu un à changer. Et mentalement, il faut réussir à retrouver ses repères, parce qu'en compétition, tout va plus vite. Donc du coup, voilà, c'est quelque chose, c'est un aspect sur lequel aussi on doit. Hein. Je pense qu'on peut encore progresser. Ouais.
Et à 33 ans, Cécilia Berder vise désormais les Jeux Olympiques de Paris 2024 à la maison, pour qui sait peut-être remporter une médaille sous les yeux de sa fille.
8FM, ici c'est 8FM.
Mauvais garçon me rabaisse, me dit que je suis pas belle, comme ça que je sais rien, qu'il est jamais heureux avec moi. Mauvais garçon me dénigre, me donne tous les noms d'oiseaux, mais les oiseaux, eux, sont libres. Plus son amour est une prison. Mais moi, je reste. Dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Faut que j'arrête. On me dit faut que j'arrête de voir mauvais garçon. Mauvais garçon tient les fils. C'est moi le pantin. Un jour sur deux, il est mignon. Un jour sur deux, il est pire qu'un mauvais garçon, jour les tire. Et moi, j'apprends les lois de l'amour et j'y connais rien. Et plus il me fait marcher, et plus je cours. Mais moi, je reste. Dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Faut que j'arrête. On me dit faut que j'arrête.
Pretend it's not the end of the world. End of the world.
Oh,
8FM. Ici, c'est 8FM.
For like once in your life, listen to me.